Toujours en direct sur Peps Radio 93.7 FM. Nous sommes sur la dernière heure de diffusion. C'est après une semaine de fréquence temporaire. Nous arrivons sur notre dernière heure et nous allons conclure cette antenne de Peps Radio avec deux thématiques qui vont se succéder rapidement. Une autour du centre de prévention et sur la thématique particulière des IST, MST. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans un instant. Et puis, on va dire une demi-heure ou 25 minutes, nous parlerons également harcèlement autour de nos micros. Pour cette première thématique autour du centre de prévention IST, MST, nous avons deux invités de ce centre de prévention à l'hôpital de Gisors et plus largement sur le pôle sanitaire du Vexin, à savoir Madame Méry. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes infirmière coordinatrice de ce centre de prévention qui a deux axes principaux, le dépistage et la vaccination. Nous y reviendrons dans un instant. Et le docteur Messaoudi, bonjour à vous. Vous intervenez également sur ce centre de prévention. En quelques mots, qu'est-ce que ce centre de prévention ? Les deux missions principales sont le dépistage et la vaccination, mais plus concrètement, comment ça fonctionne ?
Alors déjà, on rentre dans des missions que l'ARS,
l'Agence régionale de la santé,
nous a fixées, où notre but est d'avant tout apporter de l'information justement sur les infections sexuellement transmissibles, mais surtout de pouvoir les dépister.
Dans un but, j'imagine, d'apporter des solutions de traitement.
Tout à fait, il y aura toujours une prise en charge si jamais on découvre qu'il y a une infection quelconque.
Donc ça c'est la partie dépistage et la partie vaccination, elle est concentrée sur les IST, MST ou elle est plus large que cette partie vaccination ?
Elle est beaucoup plus large, on sait que nous avons un calendrier vaccinal et il y a des vaccins en France qui sont obligatoires et d'autres qui sont recommandés. Donc effectivement nous, notre rôle c'est de mettre, de faire les vaccins qui sont recommandés. Enfin, qui sont obligatoires, pardon. Et en fonction des gens qui viennent au centre, leur proposer de faire les vaccins non obligatoires.
Quand on parle de vaccins obligatoires, moi, ça me renvoie à mon enfance, à mon carnet de santé, au passage de vaccination scolaire. À l'époque, on vaccinait d'ailleurs dans les écoles. Je ne sais pas si on continue encore à faire ça, mais en tout cas, ça me renvoie à cette époque-là, à mon enfance. Mais est-ce qu'il y a des vaccinations obligatoires aussi quand nous sommes adultes et lesquelles, du coup ?
Aujourd'hui, les vaccins.
Docteur Messaoudi.
Oui, aujourd'hui, les vaccins obligatoires, c'est le DT polio, donc la diphtérie, la typhoïde,
le tétanos
et la poliomyélite. Ça reste toujours aujourd'hui obligatoire.
Il y aura Et quand on était vacciné enfant, c'est réglé pour la vie ou pas ?
Du tout. Justement, c'est pour ça qu'il y a un calendrier vaccinal. Et cette année, il a changé. Enfin, il y a deux ans, il a déjà changé. Il a changé plusieurs fois, mais la dernière modification remonte à 2014, où on a un petit peu espacé les vaccinations. Mais il y a des rappels. De toute façon, dans l'enfance, il y a les injections, mais après, on a des rappels réguliers en fonction du carnet, du calendrier vaccinal actualisé en 2014.
Ce qu'il faut aussi qu'on dise par rapport au centre de vaccination, c'est qu'on prend en charge les vaccins pour les personnes à partir de 6 ans. Avant, c'est la prise en charge avec la PMI. Donc pour ce qui est du calendrier, donc il y a forcément une vaccination des vaccins qui sont justement obligatoires à 6 ans. Ensuite, la deuxième période, c'est entre 11 ans et 13 ans, puis 25 ans. Et à partir de 25 ans, ça sera tous les 20 ans.
Très bien, de quoi oublier, en fait.
Jusqu'à 70 ans, parce qu'à partir de 70 ans, et c'est là où les gens disent, moi je suis trop âgé, donc j'ai pas à faire le vaccin. Si, au contraire, et en plus c'est plus court, c'est-à-dire à partir de 70 ans, c'est tous les 10 ans.
D'accord. J'imagine, j'ose imaginer comme ça, et là ça me renvoie à moi-même aussi, mais aux gens que je côtoie, bien évidemment, on a la sensation parfois qu'on a été vacciné enfant, et que c'est réglé, et qu'on se pose plus ces questions-là. C'est-à-dire qu'on va prendre soin de nos enfants, on va prendre soin de bien vacciner les enfants, et puis la collectivité, notamment l'école, est là pour le rappeler régulièrement. Et puis quand on arrive dans sa vie d'adulte, on y prête peut-être moins attention. En tout cas, j'ai cette sensation-là. On a un vrai manque ou pas de vaccination de la population adulte, ou c'est juste moi qui fonctionne de manière particulière ?
Non, c'est vrai. C'est qu'on a un peu de difficulté à vacciner les adultes. Alors, on profite souvent, quand ils viennent pour les enfants, de les un petit peu les motiver. Et s'il y en a qui reviennent avec leur carnet de vaccination, il y en a qui n'en ont plus déjà, qui l'ont perdu. On essaye toujours de trouver des solutions, mais effectivement, souvent, on profite de la vaccination des enfants pour motiver les parents.
Est-ce qu'il y a de réels enjeux sanitaires pour la vaccination des adultes ? Parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est bon, je suis adulte, on verra bien. Vous voyez, est-ce qu'il y a un réel, au bout d'un moment, un réel danger, en fait, ou des risques qui sont pris pour les gens qui ne se vaccinent pas ?
Le danger, c'est que, au fait, déjà, si on parle d'une maladie comme le tétanos, il n'y a pas de traitement pour le tétanos. Donc, si la personne contracte la maladie, il y a des symptômes, il y a des choses, on fait ce qu'on appelle un traitement symptomatique, le temps que les choses passent, des fois ça passe pas, des fois ça aboutit au décès. Donc effectivement, il faut la vaccination pour le tétanos. Pour certaines d'autres maladies, quand on se vaccine, on protège aussi les autres. C'est-à-dire que pour la poliomyélite, par exemple, si on dit qu'on n'est pas vacciné, si on diminue la pression vaccinale, l'infection va se propager. Et on va, c'est comme la grippe, c'est la même chose. C'est-à-dire, plus on est vacciné, moins il y a de transmission et moins il y a de malades. Donc, au fait, quand on se vaccine, on fait aussi un geste citoyen, c'est qu'en même temps, on profite pour protéger l'entourage.
Alors ça, c'est sur la partie vaccination. Sur la partie dépistage, et on l'a abordé toute cette semaine à l'antenne et notamment à travers les émissions des jeunes, oui.
Je vais juste intervenir concernant tout à l'heure, quand vous avez parlé des vaccinations, vous avez dit, est-ce que vous faites la vaccination sur les IST ou vous faites de façon globale?
Oui.
Alors, pour les vaccinations IST, est-ce qu'il faut dire qu'il n'y a pas de vaccin pour le VIH, il n'y a pas de vaccin pour l'hépatite C. Il y a un vaccin pour l'hépatite B, mais il ne faut pas se leurrer. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement efficace. Il n'y a pas de prévention efficace en dehors de ce qu'on sait déjà, les préservatifs éventuellement.
Qui est la meilleure vaccination pour le coup et que chacun peut faire soi-même. Sur la partie dépistage, donc comme je disais, on a abordé toutes ces questions-là avec les jeunes tout au long de la semaine. D'ailleurs, vous étiez à notre téléphone hier justement, Madame Méry. Sur ce dépistage, est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il est conseillé au bout d'un moment dans la vie de passer s'arrêter sur un centre de dépistage au bout d'un moment? Est-ce que si on n'a pas de symptômes, il est quand même intéressant de se faire dépister à des moments particuliers, je sais pas, sur le changement de partenaire, oui, par exemple, sur des moments dans sa vie, même sans symptômes?
Mais justement, avant de vous répondre, avant on parlait de maladies sexuellement transmissibles et j'en ai parlé hier lors de l'interview avec les jeunes, et l'intitulé a changé en tant qu'infection sexuellement transmissible, parce que quand on parle en général de maladie, ça renvoie à des symptômes. Or, il existe des infections, que ça peut être bactérienne, virale ou autre, qui n'ont pas de symptômes, qui n'ont pas de signes. Donc le fait d'avoir modifié le terme maladie en infection, c'est pour inciter les populations à venir se faire dépister sans pour autant qu'il y ait des symptômes. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est quand même important, parce que effectivement, si on n'a pas de fièvre, de boutons, de démangeaisons ou de signes apparents, on peut passer justement à côté d'une infection sexuellement transmissible.
Et pour le coup, être porteur d'une infection sexuellement transmissible sans symptômes peut quand même impliquer le fait de la transmettre à quelqu'un qui, cette personne,
tout
pourrait développer des symptômes.
Tout à fait. Surtout que les infections, elles se transmettent très facilement. Mais c'est surtout qu'à long terme, il y a des conséquences. Entre autres, la stérilité.
La stérilité, oui. Donc du coup, voilà, ce dépistage peut être considéré aussi comme un acte de prévention. Ça veut dire que je vais vérifier si je suis porteur ou pas d'une infection.
Mais on a d'ailleurs des couples qui viennent au centre, non pas parce que il y a eu un incident de parcours au niveau lorsqu'ils ont eu des rapports sexuels, mais qui viennent uniquement parce qu'ils sont en couple depuis quelque temps et qu'ils ont décidé, par exemple, d'arrêter le préservatif. Donc, en termes de prévention, là, ils viennent tous les deux se faire dépister pour s'assurer que ni l'un ni l'autre n'a une infection pour pouvoir ensuite avoir des rapports sans préservatif.
Sur la prévention, il y a un élément qui est ressorti régulièrement, et en particulier chez les jeunes. Doit-on être majeur pour se faire dépister? Et doit-on être accompagné par son responsable légal? Et troisième question, du coup, vous les prendrez dans l'ordre que vous voudrez. Troisième question, est-ce que c'est anonyme?
Alors, déjà, avant, effectivement, le 1er janvier 2016, des mineurs pouvaient venir et, effectivement, on faisait des dépistages. Or, nous avons eu des nouvelles recommandations de l'ARS et depuis, justement, cette année, les mineurs doivent être accompagnés d'une personne adulte.
Quand vous dites une personne, est-ce que c'est un tuteur légal ou c'est une personne adulte?
Je dis bien une personne adulte qui a 18 ans révolu. On ne pose pas de questions, on va juste s'assurer que la personne est bien majeure, c'est tout. Deuxième question, c'était...
Alors, du coup, je reviens sur celle-là. Hein. C'est pour s'assurer que ce mineur ne sera pas isolé avec éventuellement une réponse positive à une infection, qu'il ne soit pas isolé et qu'il trouve quelqu'un pour pouvoir éventuellement échanger avec et pouvoir l'amener vers le soin.
Tout à fait, ça répond à cette problématique, oui.
C'est tout à fait ça.
Alors, là, on était sur l'accompagnement de... Bon, on en a répondu à deux déjà. Oui. Hein. Est-ce qu'on peut se faire dépister quand on est mineur?
Oui.
Est-ce que l'anonymat... sur l'anonymat, on n'a pas répondu.
Sur l'anonymat, au fait, jusque-là, jusqu'à il y a récemment, on le faisait que sous le coup de l'anonymat. Les gens, ils viennent, ils disent maintenant, on a le choix. Ils ont le choix. Les gens, quand ils viennent, on leur demande, est-ce que vous voulez que ça soit anonyme ou pas? Ils choisissent oui ou non. Alors, à notre grande surprise, beaucoup de gens, à la limite, n'ont pas de réticence quant à le fait que ça soit pas anonyme. Alors, bien sûr...
Sachant que c'est pas publié non plus. Quand c'est pas, pas anonyme, c'est pas publié, c'est quand même couvert sous le secret médical, j'imagine.
Dans les deux cas. Leur question, c'est oui, mais quand c'est pas anonyme, pour le résultat, comment ça se passe? Mais en fait, ça se passe exactement de la même manière. C'est-à-dire que le résultat, moi, je reçois la personne. De toute façon, le résultat, le document n'est donné qu'à la personne. Il n'est pas envoyé par courrier, de toute façon, et il est donné qu'à la personne. On ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Donc, la restitution des résultats se passe exactement de la même manière. Après, on a le nom, on n'a pas, mais ça se passe exactement de la même manière.
Un résultat positif sur un dépistage, sur une quelconque infection sexuellement transmissible, est-ce que ça engage la personne qui a obtenu le résultat à des soins? Est-ce que ça engage la personne à quelque chose d'avoir un résultat positif?
Non. Disons que nous, dans le centre, on fait plusieurs types d'examens. Il y a un examen où pour eux, c'est pas compliqué, c'est-à-dire quand il est positif, on leur donne le traitement sur place, et c'est un traitement à prise unique, donc à la limite, ça, c'est pas un problème. Par contre, quand c'est des infections beaucoup plus lourdes, comme l'hépatite B, l'hépatite C ou le VIH, là, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que nous, on leur dit, mais on les oblige pas, on les oriente, par contre. C'est-à-dire on leur dit, voilà, pour telle infection, vous avez telle consultation ou tel praticien, on les oriente vers les praticiens qui s'occupent du problème. Mais on ne peut pas les obliger à se traiter.
Ça peut faire partie des craintes, effectivement, de se dire, oui, mais si je me fais dépister, je rentre automatiquement dans un circuit. Et puis, parfois, bon, il y a besoin aussi du recul ou de digérer l'information. J'imagine que d'être positif à un test VIH demande quand même un certain temps d'assimilation et de reprendre un peu les choses. Justement, ça m'amène sur l'accompagnement médical, vous venez d'en parler. C'est celui qui va être une réponse de traitement sur lequel vous orientez. Mais j'imagine qu'il peut y avoir aussi un traitement psychologique. logique à avoir. J'imagine qu'il y a certaines nouvelles qui sont plus difficiles à intégrer que d'autres.
Tout à fait. Alors, en fait, le centre de prévention de Gisors, nous sommes une antenne. Donc, le site principal qui, en fait, organise toutes les préventions, c'est le site de Évreux. Donc, effectivement, là, c'est en train d'être mis en place pour qu'il y ait une psychologue mobile pour, quand nous recevons les résultats, nous puissions nous organiser pour qu'il puisse y avoir une prise en charge psychologique. Effectivement, c'est une information qui peut être lourde. C'est déjà arrivé que dans des cas que quand on annonce le diagnostic, les personnes tombent dans les pommes, se sentent mal. Donc effectivement, il faut absolument une prise en charge psychologique.
Et puis tout le monde n'a pas autour de lui des personnes à qui se confier, avec qui échanger, avec qui en tout cas partager voilà, la mauvaise nouvelle éventuellement.
Donc le centre est organisé pour justement une prise en charge psychologique dans le cas d'une annonce malheureuse.
Voilà.
Isabelle, quelque chose à ajouter ? Isabelle Nocquet, infirmière scolaire. Est-ce qu'il y a des liens d'ailleurs entre les infirmiers scolaires et puis ce centre de prévention ? D'une question toute bête là qui
tout
me vient.
Tout à fait. Donc en ce qui concerne le centre de prévention, moi j'effectue des dépistages infirmiers dans les écoles primaires du secteur. Donc j'oriente les parents à faire vacciner les enfants lorsqu'il y a des retards de vaccination au centre de vaccination de l'hôpital ou bien chez leur médecin traitant, c'est comme ils veulent, mais bon, je leur donne l'information selon les situations. Et deuxièmement, par rapport au côté IST, donc je mentionne effectivement lorsque je fais des interventions sexualité auprès des classes de 4e, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière auprès de toutes les classes, on affiche bien sur le tableau vos coordonnées et également celle du centre de planification. Et on insiste aussi, et je le souligne de nouveau, sur toute cette partie asymptomatique de toutes les IST qui peuvent justement arriver. Et on les incite justement à consulter s'il y a le moindre problème.
Oui, docteur Messaoudi. Prenez les rênes si vous voulez, il n'y a pas de problème.
Non, par rapport à la vaccination, c'est qu'on on invite les parents à quand ils viennent avec leurs enfants, c'est d'avoir les documents. Parce que, au fait, les gens, quand ils nous appellent pour faire un vaccin. Mais au fait, on leur donne aussi un conseil. On demande aux gens de ramener leurs documents, leur carnet, pour que nous, on vérifie ce qui manque. Des fois, il y a des patients, des gens qui viennent pour un vaccin, et quand on jette un œil sur le document, on trouve que d'autres choses n'ont pas été faites. Donc, au fait, il ne faut pas appeler uniquement il me manque un vaccin, mais voilà, je ne sais pas ce qui me manque, je pense que je ne suis pas à jour, voilà, est-ce que quelqu'un peut m'aider, et ils peuvent venir au centre et on peut aussi les orienter sur cette partie-là. L'autre partie, c'est la prévention. On a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas nécessairement de symptômes, donc il ne faut pas attendre un symptôme pour venir faire le dépistage. Si on a un doute. L'autre versant, c'est aussi ce qu'on appelle les accidents d'exposition au sang. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème, il y a eu un acte sexuel non protégé, ou il y a eu un accident, ou n'importe quel type d'accident sexuel, et il a peut-être un doute sur une infection, et il ne faut surtout pas attendre, et il ne faut pas nécessairement dire « je vais au centre de vaccination ». Nos urgences à Gisors sont organisées pour prendre en charge ce type d'urgence, parce que ça devient une urgence, parce qu'on peut donner un traitement dans les 4 heures quand il y a doute sur une infection. Donc il y a des prélèvements.
Dans les 4 heures qui ont suivi la prise de risque.
Exactement.
Ah oui, c'est très rapide du coup le temps de réaction.
Oui, on peut donner un traitement en fonction des prélèvements qu'on fait, et que si par exemple on pense que le partenaire a une infection particulière, on peut, pas pour toutes les maladies, c'est pour ça que tout à l'heure j'avais dit qu'il n'y avait pas de vaccin pour les autres hépatites et le VIH, mais pour l'hépatite B on peut faire quelque chose, et même pour le VIH on peut donner un traitement préventif s'il y a un risque infectieux.
Afin de réduire les risques au maximum.
Exactement, donc il ne faut pas nécessairement attendre plusieurs jours pour dire est-ce que je vais, dès qu'il y a un risque on peut aller, si le centre n'est pas ouvert, mais ce n'est pas le but du centre dans ce cas-là, c'est parce que c'est une urgence, il faut aller aux urgences de Gisors qui sont eux organisées, il y a des protocoles pour ça.
Alors moi, je suis d'une époque où, à l'école, on nous disait qu'on pouvait détecter, par exemple, notamment le VIH, que 3 mois après la prise de risque. Vous voyez, du coup, c'est une information qui vient très clairement en opposition avec moi, ce que j'ai subi comme prévention. Alors, je vais pas vous dire il y a combien de temps, il y a très longtemps, hein, mais on nous disait qu'il fallait attendre un certain temps avant que les tests puissent être efficaces sur le test. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se dire quand même qu'entre la prise de risque en dehors du VIH, où vous dites que là, pour le coup, le chrono joue en la faveur de la personne qui pourrait éventuellement avoir été infectée, mais en dehors de cette infection-là, est-ce qu'il y a des infections qui, du coup, ne seront détectées que plusieurs mois après la prise de risque?
Oui. Au fait, les infections ne sont pas détectées tout de suite. Ça, c'est sûr, pour toutes les infections, c'est globalement pareil. Peut-être en dehors du chlamydia, parce que c'est une infection bactérienne, ça fait peut-être un peu plus simple. Mais parce qu'on la détecte sur la PCR, c'est-à-dire sur le chromosome. Enfin, c'est une technique particulière de présence du germe. Donc, on n'attend pas la multiplication comme pour le VIH ou pour... Alors, de toute façon, les autres infections, on ne les a pas tout de suite. Mais on a quelques éléments. Par exemple, pour le VIH, on peut chercher une protéine qui est rapidement détectable et on peut dire, bon, il y a un gros doute que ça soit ça. De toute façon, c'est confirmé après. Il y a plusieurs confirmations, mais on peut, c'est pas plusieurs mois, c'est en quelques jours, des fois le 24 heures après, on peut déjà avoir des prémices. Mais le plus important, c'est pas d'attendre un jour, c'est de dire... Il y a un doute parce que la personne, le conjoint ou l'autre partenaire est infecté. Il y a un doute, le risque est important, on débute un traitement. Et après, on fait les examens et on voit. S'il n'y a rien, on arrête. S'il y a une infection, on aura bien fait
de commencer.
Voilà. Mais de toute façon, il y a un traitement à débuter rapidement.
Très bien. Eh bien, docteur Messaoudi, vous ne m'aurez pas volé la conclusion. C'est quand même moi qui l'aurais. Et je me retourne vers Madame Méry pour les informations pratiques. Où est ce centre de prévention? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous pour y accéder? Et quand est-ce qu'on peut y aller? C'est où? C'est comment? Et la plateforme, comment on appelle?
Voilà.
Vous avez tout ça pour vous, Madame Méry.
Donc, le centre de prévention se trouve à l'hôpital de Gisors, au pôle sanitaire du Vexin. Donc, c'est route de Rouen à Gisors. Pour prendre des rendez-vous, nous avons une plateforme téléphonique, donc c'est les rendez-vous tant pour la vaccination que pour les dépistages. Alors je précise que si jamais on appelle la plateforme téléphonique pour prendre un rendez-vous pour un dépistage, c'est qu'il n'y a pas d'anonymat. Par contre, si on veut avoir un anonymat, la plateforme téléphonique va renvoyer la personne au téléphone vers le centre de prévention où nous sommes les seuls à pouvoir planifier des rendez-vous sous l'anonymat. Donc le numéro déjà de la plateforme téléphonique, hein, c'est le 02 32 27 76 25. Et le numéro du centre de prévention, donc c'est le 02 32 27 78 99. Les consultations avec le docteur Messaoudi ont lieu en général le vendredi après-midi de 14h30 à 17h. C'est sur, bien sûr, ce rendez-vous. Et une fois par mois, on fait des consultations que nous nommons nocturnes, de 16h à 19h30.
D'accord, c'est nocturne qu'en hiver. Hein. L'été, ça reste diurne, bien entendu. Merci beaucoup.
Ajoutez. S'il y a besoin de nous contacter aussi, nous avons une adresse mail, donc centre de prévention tout attaché, @ch-gisors.fr. Donc, ne pas hésiter, on répond dès qu'on reçoit les mails. Il n'y a pas de souci.
Merci beaucoup, Madame Méry. Vous êtes infirmière coordinatrice du centre de prévention. Oui. Merci à vous, docteur Messaoudi. Vous intervenez également sur ce centre de prévention. En espérant qu'on a été bien clair, je rappelle, la plateforme téléphonique pour prendre rendez-vous de manière non anonyme, c'est le 02 32 27 76 25. Et puis, pour contacter directement le centre de prévention et pouvoir, si on le souhaite, rester en anonyme, c'est le 02 32 27 78 99. C'est J'ai ça. Tout bon.
C'est tout bon et surtout, même si c'est pour avoir des informations, il n'y a pas de souci, on est là pour répondre aux questions.
Eh ben, en tout cas, on a bien senti que vous étiez très accessible pour pouvoir justement échanger sur ces thèmes. Merci beaucoup à vous d'être passé par nos micros. Merci. Alicia, ça me fait plaisir de retrouver une réalisatrice à la console. Alicia, est-ce que nous pouvons partir en musique ? Eh bien, c'est parfait.
Just don't care if the stars come out to play.